Le taxi s'arrêta devant chez Aidan peu après 10 heures du soir. Aidan ne descendit pas immédiatement. Il prit le temps de compter une liasse de billets froissés tout en observant à la dérobée les buissons alentour, à l'affût des ennuis. Cette ombre imposante était-elle le rhododendron de Madame H ou un autre gros dur du garage de Vito? Et ce recoin sombre sur la droite, encore des paparazzi planqués dans les arbres? Et toute cette rue plongée dans l'ombre qui s'ouvrait derrière lui? Peut-être que quelque part, de ce côté, Jason Jones était prêt à l'achever. Et merde, vas-y. Aidan balança 12 $ au chauffeur, attrapa son linge et descendit tant bien que mal du taxi, les clés de la maison en main. Il remonta l'allée, tandis que le taxi tournait encore au ralenti à sa place. Aidan lâcha les sacs poubelles, inséra la clé dans la serrure et réussit à ouvrir la porte du premier coup, même s'il avait les mains qui tremblaient et qu'il était saturé d'adrénaline et de peur, au point de ne pratiquement plus se maîtriser. Il entendit le taxi accélérer, s'éloigner. « Bouge, bouge, bouge !» Il poussa la porte, jeta les sacs de linge à l'intérieur, referma d'un coup de pied derrière lui, s'y adossa pour faire bonne mesure, tout en se débattant avec la serrure qu'il finit par refermer. Il s'affaissa alors, se laissa glisser le long de la porte, terrassé de soulagement. Il était encore en vie. Aucun gros dur ne l'avait agressé, aucun voisin ne manifestait devant chez lui, et aucun paparazzi n'épiait par ses fenêtres. Les lyncheurs n'étaient pas encore là. Il se mit à rire, un rire rauque, peut-être un tantinet hystérique, parce que, sérieusement, il n'avait pas été dans un tel état de nerfs depuis la prison. Alors qu'il était maintenant un homme libre, que pouvait-il encore attendre? Quand aurait-il jamais fini de purger sa peine? Il s'obligea à se relever, prit son linge, se coltina les sacs dans le couloir. Il fallait qu'il fasse ses valises. Qu'il dorme, qu'il se tire de là, qu'il devienne quelqu'un d'autre. De préférence, quelqu'un de meilleur. Le genre de type honnête et droit qui peut dormir la nuit. Il entra dans le séjour, laissa tomber les sacs poubelles sur le canapé à fleurs. Il se tournait vers la salle de bain lorsqu'il prit conscience du vent sur son visage. Il sentit un courant d'air traverser le salon. La porte vitrée coulissante était ouverte. Aidan réalisa qu'il n'était pas seul. Didi finissait d'expédier de la paperasse lorsque son portable carillonna à sa ceinture. Elle reconnut le numéro de Wayne Reynolds et porta le téléphone à son oreille. « Commandant Warren ?»« Vous n'avez pas le bon ordinateur ?» dit Wayne d'une voix légèrement essoufflée, comme s'il courait. « Pardon ? J'ai reçu un message d'Ethan. Ce gamin est plus fort qu'on ne croyait. Il a envoyé à Sandy un message infecté avec un cheval de Troie. »« Un quoi ? C'est une sorte de virus qui permet d'accéder au disque dur de quelqu'un d'autre. Vous savez, un petit message sympa grâce auquel l'expéditeur franchit les portes. »« Oh merde !» dit Didi. « C'est mon neveu. Apparemment, il trouvait que je ne réagissais pas assez vite pour protéger Sandy de son mari, alors il a pris des mesures pour découvrir lui-même les activités de Jason sur Internet. » Didi entendit des bruits de pas saccadés dans un escalier. « Mais vous êtes où, Wayne ?»« Au labo, mais je viens de raccrocher avec Ethan et je file à ma voiture. Je lui ai dit que je passais le prendre et qu'on vous retrouvait là-bas. »« Où ça, là-bas ?» demanda Didi, éberlué. « Voilà ce qui se passe. » Ethan a toujours accès à l'ordinateur de Sandy et d'après lui, au cours de ces dernières 48 heures, plus d'une douzaine d'utilisateurs se sont servis de cet ordinateur pour effectuer diverses recherches en ligne. Ça fait partie des investigations sur le disque dur? Les techniciens ont refait les itinéraires de Jason sur Internet? En aucun cas. Jamais on ne travaille sur la source. Si vos types avaient l'ordinateur de Jason, on ne devrait voir aucune activité. Je ne comprends pas. Vous n'avez pas son disque dur. Il a fait un échange sous votre nez. Il a remplacé soit les entrailles de l'ordinateur, soit peut-être tout le bazar, je sais pas. Faut le voir pour le croire. En attendant, il a planqué le véritable ordinateur dans un endroit carrément génial. Où ça? Bon sang, je vais obtenir un mandat dans les 20 minutes qui viennent. Au Boston Daily. Ethan peut lire les adresses internet des utilisateurs. Ils ont tous des comptes au Boston Daily. A priori, Jason a planqué son ordinateur dans la salle de rédaction, probablement sur un poste de travail collectif. Je dois reconnaître que ce salaud est malin. En bruit de fond, le gémissement d'une porte coupe-feu métallique poussait avec vigueur et qui se refermait en claquant. Wayne quittait le bâtiment. Didi entendit un cliquetis de clé, les pas lourds de Wayne sur le parking. Elle ferma les yeux, essaya d'analyser cette information, d'en prévoir les conséquences juridiques. « Merde, conclut-elle, je ne vois pas un seul juge qui m'autoriserait à saisir tous les ordinateurs d'un grand média. » Inutile. Inutile. En ce moment même, Ethan surveille l'activité de l'ordinateur depuis l'iPhone de sa mère. Dès qu'un utilisateur se connecte, il peut lire l'adresse mail. Donc la seule chose qu'on ait à faire, c'est d'être sur place, de localiser l'utilisateur à qui appartient cette adresse mail, et là où cette personne sera assise, vous aurez votre ordinateur. Il y eut un autre bruit, assourdi, puis un bref. À l'instant, j'ouvre ma portière. En bruit de fond, un grincement de portière qui s'ouvre, puis clac. Didi, debout, attrapait son blouson. Il fallait qu'elle prépare un mandat en quatrième vitesse, qu'elle trouve une manière concise de définir un périmètre de perquisition aussi avant-gardiste, puis décide quel juge appeler à cette heure tardive. « Bon, reprit Wayne. Je passe prendre Ethan, vous passez prendre le mandat, on se retrouve là-bas. »« Je passe prendre Ethan, corrigea-t-elle en sortant du bureau. Miller ira chercher le mandat, vous ne devez pas être là. Mais vous ne pouvez pas rester seul avec un témoin, ni dans la même pièce que l'ordinateur du suspect. » Conflit d'intérêts, falsification de preuves, subornation de témoins. Il faut que je continue ? Bordel ! Explosa Wayne. J'ai rien fait à Sandra. C'est moi qui vous ai appelé, vous vous souvenez ? Et puis c'est de mon neveu qu'il s'agit. Le gosse est carrément terrorisé. Dites-moi que vous n'avez jamais couché avec Sandra Jones ? Répondit Didi sans s'émouvoir. Allez, je suis déjà en voiture. Laissez-moi au moins accompagner Ethan. Il a que 13 ans, bon sang. C'est un enfant. Je ne peux pas. Vous ne voulez pas. Je ne peux pas. Trop dur. Mais j'ai encore le droit d'aller chez ma sœur. Ne vous avisez pas, commença Didi, mais elle n'eut jamais l'occasion de finir. Elle entendit le grondement du moteur qui démarrait lorsque Wayne tourna la clé, puis un étrange petit déclic. Lui aussi l'entendit. Non, merde ! Hurla le criminologue. Puis sa voiture explosa au milieu du parking du laboratoire d'analyse. Didi laissa son téléphone tomber par terre. Figée, elle tenait son oreille qui bourdonnait en criant à Wayne de sortir, sortir, même s'il était bien sûr beaucoup trop tard. Effervescence dans le service. Quelqu'un a dit à Didi de s'asseoir, puis leurs beepers commencèrent à sonner. Officier à terre, officier à terre. Ethan, pensa-t-elle. Il fallait qu'ils aillent chercher Ethan avant que Jason Jones ne s'en charge. Aidan Brewster n'implora pas. Peut-être l'aurait-il fait à une époque. Il se serait battu pour vivre. Il aurait expliqué qu'il valait encore quelque chose, qu'il était un jeune homme plein de potentiel. Mince, dès qu'il passait sous le capot d'une voiture, les mains dans le moteur. Mais il était là. Là d'avoir peur, de se sentir traqué. Mais surtout là de regretter une fille dont il n'aurait pour commencer jamais dû tomber amoureux. Alors il resta au milieu du séjour, juste à côté du canapé à fleurs, la main sur le napperon au crochet préféré de Madame H. Le pistolet apparut devant lui, visa son ventre. « Fini les soucis », se dit Aidan. Il pensa à Rachel. Dans sa tête, elle souriait. Elle lui tendait les bras et cette fois-ci, quand il lui prenait les mains, elle ne pleurait pas. Le pistolet tira. Aidan tomba par terre. Mourir prenait plus de temps qu'il ne l'aurait cru. Cela l'énerva, alors au dernier moment, il se retourna sur le ventre, essaya de ramper vers le téléphone. La deuxième balle l'atteignit dans le dos, entre les omoplates. « Eh ben merde !» se dit Aidan. Et il ne bougea plus. Jason éteignit sa lampe torche. Il prit le lourd objet métallique en guise d'arme et se dirigea prudemment vers l'escalier branlant. Le couloir allumé projetait une nappe de lumière sur le sol de la chambre. Il s'en servit comme d'une cible, en posant son pied gauche sur le premier barreau de l'échelle, puis le droit. La première marche craqua, l'échelle du grenier tremblait, instable sous son poids. Tant pis, il descendit précipitamment en se laissant glisser, atterrit avec un bruit mat et roula au sol dans la grande chambre plongée dans l'obscurité. Puis il se releva, prêt à se ruer dans la chambre de sa fille et à se battre pour la sauver. Et se retrouva nez à nez avec sa femme.